Bienvenue dans Basculement, le podcast où une fois par mois, nous partageons un thé avec un anthropologue.
Bonjour, je suis Maggie, anthropologue. Je m'intéresse aux sociabilités des mondes virtuels.
Je suis Bénédicte, je suis anthropologue et mes recherches portent sur le corps et les classes dominantes.
Nous vous souhaitons un passionnant moment en notre compagnie.
Pour ce premier épisode, nous avons la chance de discuter avec Anne-Marie Vieux-Menot de son dernier ouvrage « L'intelligence des invisibles » paru chez Académie à l'Harmattan. Anne-Marie Vieux-Menot est anthropologue et professeure à l'Université catholique de Louvain. Elle est aussi co-directrice du laboratoire d'anthropologie prospective. Elle a mené de longs terrains au Kazakhstan, à propos desquels elle avait déjà écrit une monographie bouleversante, « La yourte et la mesure du monde ». L'intelligence des invisibles porte sur les pratiques chamaniques et leur réactualisation contemporaine au Kazakhstan d'abord et au Ladakh ensuite. Ces dernières permettent d'entrer en contact avec les invisibles qui peuplent le quotidien et le monde ordinaire, et avec lesquels les êtres humains doivent négocier leur avenir et leur devenir. En nous emmenant à la rencontre de leurs médiateurs, les Barkchi kazakhs et les Lamo et Lapa ladakhi, elle nous révèle peu à peu l'importance de la circulation de la parole, de la belle parole, celle qu'adressent les invisibles aux humains et celle que les humains leur retournent. Elle nous permet de saisir un certain mode d'être au monde qui comprend en permanence la prise en considération des morts, des absents et donc de multiples figures d'invisibles. Au cours de notre conversation, nous avons d'abord parlé de sa posture d'ethnographe qui implique non seulement une manière de faire du terrain et une manière d'en rendre compte, de l'écrire, d'écrire les invisibles, de rendre compte des pratiques et de leurs évolutions. Nous avons aussi parlé, bien évidemment, de la belle parole et de sa circulation. J'espère que vous aimerez écouter cet épisode autant que nous avons aimé l'enregistrer.
En ce qui concerne ma posture, je crois que... J'y suis fidèle depuis le début de mes pratiques en anthropologie, si je puis dire. C'est-à-dire que pour moi, l'essentiel, c'est vraiment l'ethnographie. Et donc, je me vis beaucoup plus comme une ethnographe que comme une anthropologue. Je pense que c'est très, très fondamental à notre discipline, la récolte des données, mais une récolte de données... non seulement précise, mais croisée avec toute une série de possibilités de retour, et surtout l'acceptation pleine et entière de ce que les autres décident pour moi. C'est-à-dire que je ne décide pas d'une interview, je peux attendre pendant des heures assise quelque part que quelqu'un finalement... accepte de me parler, ça me dérange pas du tout. J'ai pas ce côté très pushy, si je puis dire, de j'arrive, je fais mes interviews, j'essaye de tout comprendre. Et non, pas du tout. Je me laisse vivre avec les gens. Parfois, ils ont vraiment cette gentillesse incroyable de m'offrir la possibilité de vivre avec eux. Et cette générosité aussi, moi je trouve ça, enfin, nos interlocuteurs dans la plupart des cas sont d'une générosité folle, hein, accepter qu'on soit là, qu'on leur pose des questions, qu'on fasse les gestes qu'ils font, enfin c'est quand même une intrusion très très forte dans la vie quotidienne des personnes. Et donc je me mets toujours en posture de je suis un enfant qui débarque, j'ai tout à apprendre, qu'est-ce qu'ils vont accepter de me transmettre ? Et à partir de là, je commence mon travail, d'où le fait que j'ai tendance à accepter la posture, la position qu'on me donne, et à partir de là, rebondir. Alors bien sûr, il y a des limites à ce type de pratique. C'est si je devais me retrouver, comme je me souviens, une collègue qui s'était retrouvée chez un gourou et qui, pour entrer dans la secte, devait coucher avec le gourou, ça c'est évidemment... Je ne me mets pas en danger, je ne veux surtout pas mettre les autres en danger, mais je n'accepte pas non plus de me mettre en danger, ça c'est très clair. Mais dans ces balises-là, voilà, je travaille comme ça et je prends ce qui se présente et je suis petit à petit les lignes qui sont tirées à partir de ce qui s'est présenté. Donc ça me conduit très souvent là où je ne pensais pas du tout aller, évidemment. Et ça m'oblige en permanence à revenir sur mes premières préoccupations, c'est même pas vraiment des questions, mais mes premières préoccupations de recherche. et petit à petit à essayer de comprendre le sens de pourquoi est-ce qu'ils m'ont mise là et qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire jouer comme rôle, et à partir de là, qu'est-ce qui m'est possible ou pas. Voilà, c'est je crois, les grandes lignes de ma posture. Donc, ça impose évidemment une perspective épistémologique particulière, hein, qui est pas seulement une logique de co-construction, mais vraiment d'entrer profondément dans la construction de sens de l'autre pour pouvoir peu à peu éviter la surinterprétation de tout ce qui se passe. Mais ça oblige aussi à, mais comme sur tous les terrains, je pense, à une éthique très stricte qui est quelles sont les limites, jusqu'où je vais, et surtout, encore une fois, dans un grand respect des personnes, de leur mode de vie. C'est ce qui m'a conduite à penser, à accepter que les invisibles présentés par mes interlocuteurs comme des sujets devaient être écrits, traités en sujet. Ce qui peut évidemment faire grincer des dents, mais il n'y a là aucune logique de croyance. D'ailleurs, je le dis à plusieurs reprises dans mon bouquin, personne ne m'a jamais demandé fondamentalement de croire en quoi que ce soit, mais plutôt d'accepter des processus en cours, de m'y inscrire, et dans ces processus, d'accepter la présence de multiples formes d'invisibles comme une évidence quotidienne pour chacun de mes interlocuteurs.
Je pense que justement, tu as balisé un petit peu finalement tout ce qu'on avait envie de dérouler. Alors, je pense que les grands points forts quand on rentre dans ton ouvrage, c'est clairement cette place très forte de l'engagement, de l'éthique et finalement ce respect de ta personne et de surtout ceux de tes interlocuteurs. Et tu les appelles d'ailleurs compagnons de terrain, ce qui est vraiment, je trouve, on voit à certains moments dans des petits passages que tu as un lien très fort avec ces personnes. Mais on voit aussi au fur et à mesure des pages qu'il y a aussi dans cette part d'anthropologie qu'on ne dit pas toujours, des ratages, pour reprendre le terme de Bernard Charlier, ou ce que tu appelles toi des gaffes ethnographiques. Et finalement, on se posait la question de qu'est-ce qu'une enquête réussie s'il y en a seulement une, et comment est-ce qu'on peut donner à voir cette construction progressive. Tu parlais d'être un enfant, mais est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette construction progressive d'une connaissance fine du terrain et finalement de cet apprentissage continu qui se développe et que tu montres très bien au fur et à mesure de toutes ces pages et de tous ces portraits. Pour toi, est-ce finalement un essentiel, cette gaffe ethnographique ?
Oui, c'est-à-dire, bon, j'en fais pas non plus une posture dont il ne faudrait pas sortir, c'est pas ça, c'est simplement que je me suis rendu compte qu'un certain nombre de fois, en gaffant vraiment très sérieusement, tout à coup, tout un monde s'ouvrait à moi que je n'avais pas soupçonné. Donc je ne cherche pas à produire des gaffes intentionnellement, mais dans la méconnaissance du mode de vie ou du mode d'être au monde de l'autre, il est inévitable de gaffer. Alors simplement, je crois que ça ne sert à rien de cacher ça. Ça fait partie de la méthode de l'enquête. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elle est ratée. Ça veut simplement dire que dans une observation participante, il est inévitable, comme tous les enfants, de faire des choses un peu de travers, en fait. Mais ces choses de travers conduisent à des apprentissages, c'est-à-dire que dans ces cas-là, mes compagnons de terrain, qui c'est aussi une expression que je reprends à Bernard, hein, globalement, mais mes amis, mes proches, ceux qui sont aussi devenus ma famille, hein, au Kazakhstan, ça c'est très clair, ou en tout cas qui ont eu encore une fois cette générosité de me laisser une place dans leur famille et dans leur lignage. Toutes ces personnes, du coup, se rendent compte qu'elles doivent m'apprendre des choses, parce que je viens de dire ce qu'il ne fallait pas dire, faire ce qu'il ne fallait pas faire, et donc pour que ça ne se reproduise pas, il faut bien écouter la leçon. Hein, le dispositif de la gaffe, ça marche si on la reproduit pas. C'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer que on a appris quelque chose avec ça. Sinon, on se fait éjecter, ce qui est parfaitement normal. Hein. C'est surtout quand il s'agit justement d'entretenir des liens avec de multiples formes d'invisibles qui peuvent intervenir en permanence dans la vie quotidienne des gens, leur apporter tout autant de bonheur, de paix, que de malheur, de difficultés, de maladies et autres. Donc il faut être très très prudent, on ne joue pas impunément avec les invisibles, et une fois qu'on a une leçon, il faut la conserver à vie. Et j'en donne quelques exemples dans mon livre, où en effet je vois pas l'intérêt de cacher ça, ça fait partie de mon enquête. Voilà. Et comme ça en fait partie, je dois pouvoir en faire quelque chose, c'est-à-dire que je dois pouvoir élaborer sur ça. Alors maintenant, est-ce qu'il y a des enquêtes réussies, des enquêtes ratées ? Moi, je crois qu'il n'y a jamais de ratage, au sens où, même si nous n'aboutissons pas à une compréhension d'une production de sens particulier, l'expérience est toujours cumulative, c'est-à-dire que au fur et à mesure de nos différents terrains, au sens de construction de relations avec les personnes présentes et avec des personnes qui deviennent de plus en plus proches dans un grand nombre de cas, il y a toujours de l'apprentissage qui se fait. Les expériences s'accumulent et au bout d'un certain temps, le front finit par tomber quand même. C'est-à-dire que même si on a pris des chemins de traverse très longtemps, tout à coup, en relisant parfois des données 10, 15 ans après, on se dit « bon sang, mais c'est bien sûr, pourquoi n'avais-je pas vu ça auparavant ? C'est une évidence, c'est ça qu'ils étaient en train d'essayer de me dire. » Donc je ne crois pas qu'il y ait des ratages au sens propre du terme. Peut-être si on se fait définitivement éjecter d'un terrain, ça oui, c'est vraiment dommage ou dommageable pour tout le monde malheureusement, mais c'est quand même peu fréquent, ou en tout cas, à ma connaissance, très peu de collègues relatent ce type d'expérience.
Moi, j'aimerais remonter par justement cette question fondamentale qui est: que faire de l'invisible, de l'impalpable, de l'inaudible, de l'inodore et de l'insipide? Et tu te poses la question très juste et tu montres que finalement ces invisibles sont complètement pris dans ces uns, comme tu dis, ce suffixe dit tout en fait, et comment l'objectiver, c'est ce que tu poses comme question. Et je trouvais ça intéressant dans un premier temps, avant de vraiment après passer à la belle parole et vraiment à comprendre un petit peu, bon voilà, ton livre permettra de mieux comprendre encore, mais de comprendre un tout petit peu ce que sont ces invisibles. J'aimerais bien qu'on revienne quelques minutes sur finalement ce début qui est comment rendre tous ces uns qu'on peut voir sur tes terrains.
Oui, c'est ce que j'ai essayé de faire en gros dans l'ensemble de mon bouquin.
Moi, je trouve que c'est réussi.
C'est, moi aussi, je trouve ça tellement réussi. Oui.
Merci. Je sais pas si ça l'est, mais en tout cas, je l'ai présenté, enfin, j'ai présenté avant, pas sous cette forme-là, puisque il est sorti il n'y a pas très très longtemps, donc je n'ai pas encore eu le temps de le ramener sur mes différents terrains. Mais j'avais présenté déjà à plusieurs reprises en Asie centrale, au Kazakhstan et en Ouzbékistan, mes recherches autour de cette question. Et localement, mes collègues, les chercheurs locaux et même des personnes qui étaient venues aux conférences, comprenaient parfaitement de quoi je parlais. C'est-à-dire qu'ils reconnaissaient dans ce que j'étais en train d'exposer leur mode de vie et leur rapport à ces invisibles. Donc ça, c'est un peu rassurant. Ça veut dire que d'une certaine manière, j'ai sans doute réussi en partie à objectiver et à écrire ce qui ce qui fait sens commun dans ces sociétés, dans le rapport avec tous ces uns, qui sont localement objectivés de manière quotidienne et très claire à partir du moment où tout fait signe dans le milieu dans lequel on se trouve. Un son, un branchage qui bouge un peu plus qu'un autre, une lumière plus vive, une odeur de fumée, tout fait signe. Ce sont donc là des invisibles qui se manifestent d'une manière ou d'une autre. Et je suis un peu partie sur la piste de ces manifestations, en fait. Voilà. Donc comment objectiver ces uns en suivant simplement leurs manifestations, comme elles sont conçues, ressenties, vécues localement.
Mais outre ça, là on parle, dans la dernière parole, on parle de la place finalement du ressenti humain, etc. Mais tu montres très bien en fait que, et je trouve que c'est dans une optique de finalement dépasser l'ethnocentrisme, dont d'ailleurs à plusieurs reprises tu mets en garde finalement le lecteur et même les anthropologues de ne pas s'égarer dans un ethnocentrisme, notamment en reléguant du domaine de la croyance les invisibles et autres, et tu mets en garde là-dessus. Mais je trouve même que tu allais plus loin, tu poussais à sortir de l'anthropocentrisme, je vais dire ça comme ça, en rendant finalement aux invisibles leur place et finalement ce rôle d'acteur. Et donc finalement, tu montres que les invisibles ont leur propre intentionnalité, que les non-humains agissent, ils jouent un rôle, ils s'adressent, et on s'adresse à eux, et qu'il y a là une relation qui se joue, ils ont un rôle à jouer dans cette société. Finalement, est-ce que tu peux nous dire finalement quelques mots encore sur cette adresse aux invisibles et comment finalement les humains leur rendent et comment finalement... rendre aussi, et ça c'est la question finalement de l'anthropologue, plus que finalement de compréhension encore du milieu, c'est comment, en tant qu'anthropologue, retrouver cette place et arriver à travers d'une écriture que moi je trouve extrêmement fine et pleine de sens, où tu laisses au lecteur la possibilité de te suivre au fur et à mesure et de lui-même tirer ses propres conclusions et de petit à petit entreapercevoir ces invisibles. Comment est-ce qu'on rend ces invisibles, comment on leur rend leur place, dans une écriture qui est parfois trop anthropocentrée, on pourrait dire.
Je crois tout simplement en les traitant en sujet comme le font mes différents interlocuteurs. À partir du moment où ils en parlent en permanence comme des sujets qui font partie des conversations de leur vie quotidienne, qui interviennent dans les champs, qui interviennent au sommet de la montagne et un peu partout, qui suis-je moi pour dire ah non mais attention, ils sont en train de dire que mais c'est pas tout à fait vrai. Non, ça c'est pas mon travail d'anthropo de dire c'est vrai, c'est pas vrai, ni même mon travail d'anthropologue, ni même d'ailleurs de personne, que de basculer dans des logiques de croyance où tout à coup j'adhérerais à la croyance de l'autre. Je pense que, d'ailleurs, encore une fois, ce ne sont pas, au sens littéral du terme ou tel que nous l'entendons, des logiques de croyance, mais simplement des praxis qui se révèlent dans la quotidienneté. Les invisibles sont là, on les prend plus qu'en compte, on les prend au sérieux vraiment, et on instaure avec eux toute une série de communications possibles. Et par parole ou acte de parole, j'entends vraiment l'ensemble de l'acte de parole, c'est-à-dire le geste, l'écriture, les marqueurs d'espace, tout ce qui va permettre de se remémorer dans la quotidienneté que on ne s'adresse pas qu'à des humains, qu'on ne vit pas qu'entre nous, mais qu'il y a toujours d'autres, dans d'autres dimensions, qui sont là à intervenir tout le temps. La discipline ou les manières de s'exprimer dans la discipline ont beaucoup changé. Ce qui fait aussi que les écritures, au fur et à mesure du temps, changent et que je pense qu'on on essaye plus, on va certainement plus loin dans les manières d'expression aujourd'hui d'une ethnographie où on n'essaie pas de cacher le chercheur, la présence du chercheur. Ça, c'est quand même assez récent dans l'histoire de la discipline. Et d'ailleurs, pour les personnes qui sont attachées à l'origine de la discipline, ça passe pas très bien. C'est comme si on faisait de l'anthropologie au rabais. Donc voilà, il faut se remettre en contexte. Il est vrai aussi que dans notre laboratoire d'anthropologie prospective à Louvain, on a développé un mode de travail qui est assez différent des autres labos ou d'un grand nombre d'autres laboratoires. Et que donc, je vous sens très enthousiaste et ça me fait très plaisir, mais je ne suis pas sûre que mon bouquin va être extrêmement bien reçu dans des labos très classiques. Ça, je suis même sûre du contraire. Hein, mais bon, ce n'est pas très grave. C'est comme ça. Je pense que beaucoup vont me reprocher justement d'être trop dans la perspective sensible, trop dans le récit d'un certain nombre d'anecdotes. Je crois que ça va poser... Et surtout, que ce qui ne va pas passer du tout auprès de certains, c'est que j'écrive et je traite les invisibles en sujet. Et ça, c'est clair que ça ne va pas passer. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Chacun s'inscrit où il peut dans son travail. Hein. Je ne suis pas en train d'écrire... le point levé en revendiquant une posture particulière, pas du tout. Hein. C'est simplement dans les contextes dans lesquels j'ai travaillé, avec les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, je ne voyais pas comment je pouvais transmettre ça autrement. C'est tout.
Oui, je trouve que ça nous donne vraiment à voir un certain Kazakhstan. Je trouve qu'on entre vraiment fort dans la finesse de la vie de ces gens, qu'on comprend à quel point leur monde est complexe et complet et agit comme une cosmologie. Enfin, moi, j'ai pas eu l'impression de regarder de l'extérieur un tableau en me disant quelle chouette description de cet endroit exotique. J'avais l'impression d'être dans un quotidien, une contemporanéité avec des logiques et des tensions dans lesquelles les gens étaient pris. Et ça, j'ai trouvé ça très fort et très intéressant. Et je trouve que le tour de force du livre, c'est justement de donner à voir ces invisibles comme des actants à part entière qui... J'ai adoré la toute fin, même si ça devient un discours vachement plus théorique et un peu plus lourd.
Tu as finalement compris ce que je voulais dire par la partie conclusive qui monte en puissance et que d'un coup on se retrouve avec un apport théorique et conceptuel en apothéose, on pourrait dire ça comme ça, où d'habitude une conclusion est plus douce, plus...
Mais cette notion de coproduction des invisibles et des humains, j'ai trouvé que c'était vraiment un concept très fort, où c'est pas uniquement les humains qui produisent les invisibles en les nommant, mais où les invisibles produisent les humains dans le même geste, en reconnaissant leur l'adresse qui leur est faite. Et ça prend tellement sens par rapport à ce qu'on a lu, et ça donne une telle profondeur au monde que tu nous as donné à voir. C'est super intéressant. C'était la pire conclusion de la vie.
Pas du tout. Non, merci, tant mieux. Enfin, tant mieux si c'est ça que vous avez perçu. C'était un peu le but du jeu, mais...
C'est une belle nouvelle. Alors ça, c'était les invisibles, c'était l'obsession de Maggie. Moi, mon obsession, enfin, ce que j'ai vraiment aimé, que j'avais déjà beaucoup aimé dans les yurts, même si c'est pour ça que j'ai pleuré, c'est tu ne tombes pas dans les travers d'un présent ethnographique qui ahistorise les gens dont tu parles, mais que tu rends vraiment compte de monde en mouvement, de monde en mutation, avec toute une série de processus à l'œuvre. Et donc... Qu'on voit que la situation évolue à chaque fois que tu vas sur le terrain et que du coup les pratiques changent, que les gens changent et que tu arrives à donner à voir les logiques derrière ces changements. Je trouve ça très fort de réussir à parler à la fois du changement et qu'il s'articule à un apprentissage de plus en plus profond et que tu t'inscrives dans ces sociétés en changement, ou plus particulièrement dans ce Kazakhstan qui se modifie complètement entre l'indépendance et notre époque. Et j'aimerais bien parler plus du téléphone portable, parce que ça m'a un peu fascinée.
Les antennes et le téléphone portable.
Oui, ben voilà, tu veux dire parler plus l'arrivée des nouvelles technologies.
Oui, c'est ça. Comment est-ce que ça a changé le rapport des gens aux choses
Mais assez simplement, finalement, ces nouvelles technologies, ils s'en sont emparés en les inscrivant dans leur vie quotidienne à leur manière, c'est-à-dire de manière enculturée kazakh ou enculturée ladaki. Et donc, ces objets font partie des scènes rituelles comme d'autres objets. Et ça ne pose pas de problème majeur, finalement, apparemment, si ce n'est que... bon, j'ai une photo dans le bouquin, là, où il y a entre une antenne parabolique mm-hmm. et quand même les mondes superposés tout en haut, une tête de bouquetin. Hein. Donc, ça, c'est intéressant de voir qu'un référent qui est plus proche, plus coutumier, va permettre peut-être quand même de se protéger de cette antenne parabolique dont on ne sait pas très bien pour l'instant, puisque c'est le début, ce qu'elle va produire par la suite. On l'utilise, mais on ne sait pas jusqu'où ces invisibles que sont les ondes sont dangereux ou pas. En tout cas, ils font partie du grand processus ou du grand complexe, plus précisément, de la circulation de la parole. C'est le téléphone portable, quand il sonne, oui, sans doute, il y a quelqu'un à l'autre bout, mais s'il y a quelqu'un à l'autre bout, il y a forcément des invisibles qui vont s'intéresser à cette conversation, et donc on prend les mêmes précautions oratoires que celles qu'on peut prendre en vis-à-vis. C'est vraiment très intéressant. Et d'ailleurs, c'est typique avec Otonche, mon frère aîné kazakh, qui ne répond jamais directement à son téléphone portable. Et on entend toujours une petite musique avant d'avoir sa voix. Donc il a mis une sorte de sas de décompression qui s'adresse aux autres avant de s'adresser à son interlocuteur au bout du téléphone. Hein, ça, c'est vraiment tout à fait remarquable. Mais de la même manière, ces téléphones sont parfois au milieu d'objets rituels et parfois même utilisés au milieu du rite. Hein. Dans certains cas, j'ai vu des barksis sortir de transe, répondre au téléphone, raccrocher et entrer à nouveau en transe. Bon, après, ce que j'ai écrit sur la transe et ses va-et-vient possibles, c'est pas du tout étonnant. Simplement, et ça ne veut pas dire pour autant qu'il s'agit là d'une théâtralisation et d'un jeu qui est faux, pas du tout. Hein. C'est simplement que, voilà, les objets du quotidien appartiennent aussi à certains moments aux scènes rituelles, mais ils ne sont pas seuls, évidemment. Il y a tous les autres objets rituels qui sont là et qui permettent de garantir éventuellement une protection autour de ces dites nouvelles technologies. Plus intéressant peut-être dans cette perspective, c'est les antennes qui sont mises, enfin les antennes de téléphonie mobile, qui sont mises systématiquement dans des lieux où il y a déjà, j'ai vu ça beaucoup au Ladakh, mais au Kazakhstan aussi, des temples, des tombeaux, et où ça n'a l'air de déranger absolument personne que ces antennes soient là. Bien sûr, chaque fois, c'est sur des sommets, donc géographiquement et géologiquement, ça fait sens, hein, parce que les ondes passent mieux là que si c'était vraiment dans le creux, et on est d'accord avec ça, mais personne ne s'est révolté contre la mise en place de ces antennes, et on continue à venir faire des rites à côté, à empiler des cornes, de bouquetin ou de tso au Ladakh, à déposer des offrandes, à mettre des drapeaux, enfin, c'est vraiment à réciter des mantras ou des versets coraniques, et ça ne pose problème à personne. Donc, il y a vraiment une assimilation, ou plutôt une cohabitation réussie entre les différentes techniques, les différentes époques, une sorte d'imbrication comme ça, d'espace-temps. Et finalement, c'est très cohérent avec le fait qu'on vit en permanence avec des mondes invisibles, occupés par des invisibles, à côté du monde des humains. C'est une continuation assez logique, finalement, me semble-t-il.
Je trouve un des points forts, et ça sent dans ce que tu viens de raconter, c'est le côté tu montres à quel point ça fait sens pour les personnes sur place, ils le vivent comme ça, les invisibles le vivent aussi comme ça, mais à la fois c'est très pragmatique et ce n'est pas un jeu de dupes, c'est jamais un jeu de dupes. Il y a bien une chose que l'anthropologie m'a appris et je pense nous apprend au quotidien, c'est qu'il n'y a jamais de jeu de dupes en fait, mais tu nous montres le côté très pragmatique, notamment avec ces évolutions au niveau financier de cette marchandisation petit à petit de ces rites et autres, et tu montrais bien comment c'est une relation pas simple, pas évidente, ça ne va pas de soi. C'est un monde en mouvement et en transition, et des choses sont en train de bouger, de s'adapter. Et en même temps, on voit qu'il y a des traces de toutes les périodes aussi. Tu montres avec la période soviétique et autres que tout est en train de changer, mais finalement, ça s'accumule, ça se rejoint, ça s'entrelace. Donc il y a cet aspect financier et aussi cette phrase qui m'a marquée, qui montre pour moi en fait le point fort de ce monde en mutation, c'est tu dis à un moment donné, comme partout, la contemporanéité urbaine implique la disparition du silence. Parce que pour toi, le silence fait partie intégrante du rite. Parce qu'il y a l'acte de parole, il y a la belle parole, mais le silence est aussi de cet acte de parole.
Oui, c'est un contrepoint, bien sûr.
Voilà. Et tu dis que finalement, mais même dans la yourte, le silence était tout relatif. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de réfléchir comme ça, parce qu'en Occident, on a tendance à dire... Il y a ou il n'y a pas. Et le silence est plus dans il n'y a pas. Et tu montres à quel point, en fait, non. Et cette contemporanéité qui se donne à voir dans la disparition du silence, il y a quelque chose.
Bien sûr.
Et je trouve que c'est une des sensibilités de l'anthropologie que tu cultives et dont tu montres toute l'importance. Et voilà, si tu veux revenir quelques minutes sur cet aspect financier et puis cet aspect disparition, mutation, en tout cas, de certains éléments, dont le silence.
Toutes les sociétés humaines sont en transformation permanente à travers les âges, hein, vraiment toutes. Donc ces sociétés ne font pas exception, elles s'adaptent à des situations, à des transformations, encore une fois de manière très enculturée, c'est-à-dire chacun à sa manière, en s'emparant de... Les traces de modernité, donc aujourd'hui on dirait post-moderne ou post-post-moderne, enfin quel que soit le terme qu'on emploie, ces traces sont très claires à travers le fait que à la fois il y a une professionnalisation de ces pratiques, ce qui montre bien qu'il faut partout il faut un diplôme pour être reconnu. C'est un peu la même chose qui est en train de se mettre en place, ça s'est mis en place de manière tout à fait évidente au Kazakhstan et il me semble que c'est en train de se mettre en place au Ladakh. Et puis la deuxième chose, c'est une féminisation des pratiques, et ça je pense que c'est vraiment un phénomène conjoncturel, c'est-à-dire lié à un basculement du passage d'un mode de vie nomade à un mode de vie sédentaire, où les femmes s'adaptent vite, plus vite et mieux que les hommes à ces nouveaux modes de vie. Et du coup, elles vont saisir des opportunités, notamment celle de se faire reconnaître en tant que Barksi ou Lamo, pour pouvoir petit à petit commencer à professer littéralement, alors que donc on passe d'une logique de reconnaissance du groupe à une logique de profession avec un diplôme, à professer et donc à gagner de l'argent et à pouvoir faire vivre leur famille par cet intermédiaire-là. Mais au début, toutes celles que j'ai interviewées en tout cas débutent simplement parce qu'elles sentent l'appel. Donc, c'est-à-dire que la manière d'entrer dans la barxélique ou dans les pratiques d'oracle au Ladakh sont toujours les mêmes. Ce qui va se transformer, c'est en bout de course. C'est-à-dire que oui, on va plutôt recevoir de l'argent que de la nourriture ou des vêtements. Oui, petit à petit, on va recevoir de plus en plus parce que ça augmente le paquet de billets et ça permet effectivement de faire vivre les familles qui se retrouvent parfois dans des situations de paupérisation assez importantes. Donc voilà, ce sont des adaptations comme à peu près, encore une fois, toutes les sociétés humaines produisent au fur et à mesure de leur transformation contemporaine, hein. Ça c'est très clair.
Oui, mais du coup tu rends compte de plein de processus à l'œuvre de manière superposée ou... entrelacées, mille feuilles, à la fois le processus du rituel, le processus, les processus historiques locaux, pris dans les processus historiques globaux, et on voit que toutes ces logiques viennent se superposer pour produire des formes inédites et un peu fascinantes. C'est mon rêve de réussir à écrire le processus comme ça.
Je crois que c'est le rêve d'un
petit peu l'objectif auquel je tends.
Vous êtes vraiment à la fois très charitable et très laudative. Merci beaucoup.
On était première fan. Hein,
voilà. On va se faire des t-shirts. Mais...
Oh oui.
Alors, je me suis toujours intéressée finalement à deux grandes entrées en anthropologie, celle par le corps, les pratiques et usages du corps, et celle par l'espace, c'est-à-dire par les lieux investis par ces corps. Un corps n'existe que parce qu'il y a un lieu, c'est-à-dire qu'une personne est construite à partir d'un lieu qui est son lieu du corps, qu'elle occupe de manière particulière, enculturée, et à partir de là, elle est investie d'un certain nombre de principes vitaux, ce qui va l'animer, et peu à peu, elle va pouvoir commencer à communiquer, grandir, occuper un rôle, une place dans la société. Et ces sociétés-là se conçoivent immédiatement dans des liens très étroits avec, comme dirait Berthe, le milieu qu'elles occupent, hein, c'est-à-dire qu'elles agissent sur leur milieu et le milieu agit sur elles. Et donc, en effet, dans des relations écuménales complexes, mais elles ne se pensent pas seules dans ce milieu. C'est-à-dire que de multiples intervenants, de présences, manifestations sont là. Ce sont tous ceux que j'ai appelés des invisibles, hein, que certains appelleront non-humains. Mais bon, dans les non-humains, il y a des visibles tels que les animaux, la flore, en gros, tout ce qui est présent autour de l'humain, les arbres, les fleurs,
les pierres,
les montagnes, les insectes, que sais-je encore. Hein. Et à partir de ce moment-là, en fait, il a bien fallu que les humains trouvent un moyen ou des moyens complexes de entrer en communication avec toutes ces présences dans leur milieu. C'est-à-dire de pouvoir agir sur le milieu et de se laisser agir par lui, en fait. Et en tout cas, en Asie centrale, et j'ai retrouvé ça d'une manière assez semblable au Ladakh, la priorité a été mise finalement sur ce qu'on pourrait appeler la production du beau, c'est-à-dire de la belle parole, de la belle écriture, du beau dessin, de cette logique de on va s'adresser à ces invisibles, mais pas n'importe comment. Pour ce faire, il faut vraiment apprendre à communiquer correctement. Donc, depuis tout enfant, les enfants doivent apprendre à faire des compliments, à porter un toast, pas forcément avec de l'alcool, bien sûr, mais en tout cas, à remercier leurs aînés, et chaque circonstance de la vie conduit à ça. Même dans la vie quotidienne, où on va remercier sa mère d'avoir préparé un repas magnifique, et parce qu'on sait très bien que dans ce repas et dans tous les gestes qui ont conduit à ce repas, d'autres sont intervenus, d'autres non-humains sont intervenus, et donc il faut les remercier aussi. Donc on ne se parle jamais entre soi. On parle toujours avec d'autres présences autour de soi qui sont susceptibles d'intervenir tout le temps. On les prend en considération et donc on fait très attention à la manière dont on s'adresse à eux. Et c'est vraiment ça l'origine de la belle parole et de sa circulation. Et alors ça prend de multiples formes. C'est la production de beaux dessins. Je me souviens quand je noircissais mes cahiers d'ethnographe tout au début de mes premiers terrains dans les années 90 au Kazakhstan. Et je faisais des petits dessins, des petits schémas très rapides comme ça. Et chaque fois, la fille aînée de mes bergers venait en me disant « Anatatia, mais on ne vous apprend pas à dessiner chez vous. » Elle était catastrophée par mes gribouillis. Et donc, c'est avec grand bonheur, je lui passais mon cahier. Et alors, elle me faisait j'ai des cahiers comme ça avec des dessins magnifiques, vraiment. Mais j'ai compris après que ce n'est pas parce qu'elle était obsessionnelle du trait, mais vraiment parce que... j'étais en train là d'introduire un désordre qu'il ne fallait pas introduire dans l'ordre de cette circulation de la belle parole, en fait. Et tout concourt à ça, c'est ça qui est formidable. Quand on prend cette grille de lecture, tout à coup, les morceaux du puzzle se mettent en place et permettent vraiment de comprendre le sens très profond de cette présence humaine, finalement. Qu'est-ce qui permet aux humains d'être sur cette planète ? C'est de prendre en compte tout ce qui est autour d'eux. On ne se pense jamais seul, isolé de tout. Et ce n'est pas seulement une logique communautaire entre humains, c'est une logique bien plus vaste qui prend en compte toutes les formes de vie possibles, y compris ce qui est inerte, en effet, ou ce qui nous apparaît comme inerte, tel que la pierre, le rocher. Hein, c'est inscrit profondément dans la pensée chamanique. Hein, l'arbre, la pierre, l'eau, c'est vraiment la base des formes de chamanisme dit traditionnel ou des origines et qui sont toujours présentes dans les formes transformées contemporaines que j'ai pu observer, avec lesquelles j'ai travaillé et qui m'ont conduite à écrire ce livre. Voilà.
En parlant de ce livre, maintenant que tu nous as un petit peu présenté la belle parole, j'ai envie de te poser cette question et j'en ai déjà touché un petit mot dans les couloirs avant de faire cette interview. C'est finalement, on a là, pour moi, un beau livre dans les mains. Donc c'est dans cette recherche du beau où tu dis souvent que les anthropologues sont des besogneux de la plume, mm-hmm. Chose qui m'a vraiment marquée. Étant donné qu'on est dans cette relation-là, finalement, ce livre, dans toute cette circulation de paroles que tu nous montres, quelle est pour toi ? Alors, c'est peut-être une question d'occidentale naïve, hein, on pourrait dire ça comme ça. Peut-être que tes compagnons de terrain trouveraient cette question totalement incroyable parce que, comme tu le dis, il faut une instauration. Mais quelque part, en parlant de ces invisibles, peut-être que tu les convoques un petit peu en dehors de là où ils ont l'habitude d'être. Je me pose la question, pour toi, ce livre, qu'est-ce qu'il revêt dans toute cette histoire, finalement ? Est-ce qu'il a une place pour toi dans ce monde avec ces invisibles, avec tes interlocuteurs, outre cette relation que tu as en tant qu'anthropologue ? Mais est-ce que cette belle parole circule à travers ce livre ? C'est un petit peu ma question.
J'ajouterais à ça, c'est du coup quelle place il occupe dans cette circulation de la parole,
oui, oui.
Puisqu'il la relaie d'une certaine manière.
Oui, tout à fait. Enfin, tout à fait, je l'espère, mais... Bon, d'abord, je voudrais simplement dire que cette expression, mais je l'ai écrite quelque part déjà, de besogneux de la plume, je l'emprunte à Ella Maillard, hein, vraiment une dame pour qui j'ai beaucoup d'admiration, qui est une compatriote suisse, d'ailleurs.
Je vais aller la lire.
qui a des récits merveilleux dans les années 30... en Asie centrale et dans les ex-pays soviétiques avant de passer en Inde et dans les Himalayas. Ce livre... Mais ce livre, voilà, c'est comme toute production, je pense, qu'elle soit littéraire ou anthropologique ou autre, à partir du moment où il y a un support de parole, ce livre vit de lui-même. C'est-à-dire que je suis... Et c'est vraiment pas une figure de style ni de la fausse modestie, mais je suis même étonnée d'y voir mon nom, si tu veux, tellement il ne m'appartient plus. C'est-à-dire que j'ai essayé le plus honnêtement possible de rendre compte d'un certain nombre de modes de vie, de modes d'être au monde et de manière vraiment décentrée. Maintenant, voilà, il aura la vie qu'il a à avoir. En respectant en tout cas la parole de mes différents amis, interlocuteurs, compagnons de terrain, J'espère ne pas avoir failli à cette circulation de la belle parole. C'est tout ce que je puis espérer pour ce livre, c'est tout. Je ne dis pas pour autant que j'ai une belle écriture, je dis simplement que j'essaye voilà, de ne pas instaurer trop de désordre dans ce que j'ai essayé de raconter là. Voilà.
Oui, parce que c'est ça qu'on ne m'a pas du tout précisé depuis le début, mais la contrepartie est... C'est marrant parce que tu n'en parles qu'à la fin, et dans ma prise de notes, bah, je prends toujours des notes quand je lis quelque chose, j'ai commencé, je sais pas, une vingtaine de pages avant à écrire pour moi, mais il faut pas oublier qu'en face, en fait, il y a vraiment qu'il y a un objectif qui est de ne pas être atteint par des esprits diaboliques ou néfastes, enfin des invisibles qui auraient des mauvaises intentions ou qui pourraient être le mal, le malheur, la maladie, c'est ça que tu énumères chaque fois, maladie, malheur, mal.
Non, mal, malheur, maladie, oui.
C'est qu'en et fait, il y a un vrai risque à offenser les invisibles.
Bien sûr, on ne joue pas impunément avec les invisibles, on ne leur parle pas n'importe comment, ils vont réagir, bien évidemment. Enfin, donc, en effet, il y a un vrai risque. Et d'où tout ce complexe de jeter des sorts par la parole, la puissance de la parole. Enfin, la parole, c'est une arme terrible, absolument incroyable. Avec laquelle il faut prendre beaucoup de précautions et donc bien réfléchir à ce qu'on va dire, ce qu'on va écrire, même comment on va le prononcer. Enfin, c'est un peu l'exemple que je donne de Nomka, donc de mon interprète Ladaki. On est ensemble à un rite et c'est vrai que j'ai pris une écharpe blanche, mais parce que tout le monde faisait ça et que je me dis bon, il faut le faire. Et j'ai pas pensé à une vraie question pour les là qui sont en train d'arriver et je pose pas bien ma question et tout de suite je suis repérée comme vraiment l'imposture du jour là. Et Namka n'arrêtait pas après de me dire. Si tu n'as pas de questions, tu n'interviens pas, quoi. Et apprends à poser, à parler correctement aux divinités, aux invisibles, si tu veux une réponse. Donc, tout ça fait partie d'un apprentissage depuis la plus tendre enfance, où il faut réussir à avoir, si je puis dire, la bonne langue, les bons codes, pour pouvoir s'adresser aux invisibles. Mais c'est la condition humaine qui est en jeu dans cette affaire-là. Si on rate son adresse, on rate son incarnation aussi. Hein? Donc, il faut faire très très attention.
Домбыраның күйім менен, о-о-о, ақ саусақ таңған еді, қандығаш, қандығаш.
Qu'est-ce que c'est pour vous être anthropologue aujourd'hui?
Oui. Ouais. Est-ce que c'est tellement différent d'avant, des générations précédentes? J'en suis pas si sûr. Je pense que encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les modes d'expression sont différents. La manière dont nous transmettons, dont nous écrivons. Mais on est toujours inscrit dans une époque, en fait. Et je suis inscrite dans mon époque comme tous mes collègues qui m'ont précédée étaient inscrits dans la leur. Et donc, voilà, c'est même si nous passons notre vie à essayer de sortir d'un ethnocentrisme de base, on est toujours rattrapé par lui. C'est-à-dire que bon, Mike Singleton a écrit de très belles pages là-dessus. Donc voilà, est-ce que c'est si différent d'avant? J'en suis pas tout à fait sûre. Je fais avec... avec ce qui se présente à moi aujourd'hui, voilà. Je crois que nous avons un rôle d'autant plus important que les imaginaires sur l'autre sont toujours à l'œuvre, ils sont toujours récurrents. Donc moi, je pense qu'il faut ethnographier tout le temps, partout, et essayer de bien montrer comment des groupes humains, à un moment donné de leur histoire, produisent du sens... sur leur monde, leur milieu, leur manière d'être les uns avec les autres de manière très singulière et particulière. Et tout ça montre la grande diversité et la richesse de notre espèce. Donc je crois que oui, bien sûr, nous continuons à avoir un rôle pas seulement conservatoire, hein, mais aussi, et c'est le but de notre anthropologie prospective, c'est d'essayer de comprendre dans ce qui se passe aujourd'hui pour un certain nombre de personnes, ce qui va advenir d'un certain nombre de groupes sociaux ou de sociétés, et de manière plus vaste peut-être, de notre espèce sur cette planète. Donc je pense que notre rôle est tout à fait clé, fondamental, que l'anthropologie n'est pas morte, mais je pense surtout aussi qu'il n'y a pas une anthropologie, mais des anthropologues, puisque nous sommes censés donner à voir, transmettre, décrypter des manières d'être au monde et de production de sens. Donc forcément, si nous nous attachons au sens de l'autre, à chaque fois, une nouvelle anthropologie est en train de s'écrire. Et ce qui, je crois, est fondamental, c'est la préservation de la diversité. C'est fondamentalement, l'ethnographie doit absolument montrer la diversité. Je milite pour les monographies, je milite pour le fait que nos monographies soient reconnues comme l'équivalent de X articles et reconnues dans les carrières des chercheurs, parce que on a non seulement beaucoup de mal à être publié, mais en plus il est exclu de publier 800 pages. Mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Même en 800 pages, raconter une société, un groupe social, des pratiques, c'est dérisoire par rapport à tout ce qui se passe. Donc vraiment, il faut militer pour la monographie et l'ethnographie. Si j'ai un engagement, c'est vraiment celui-là, bien sûr. Oui.
Ce podcast a été réalisé au sein du LAP, Laboratoire d'anthropologie prospective de l'UC Louvain.
Il a été préparé, écrit et enregistré par Maggie de Fruitier et Bénédicte Fontaine, monté sur Audio City par Maxime Lampol et Bénédicte Fontaine.
Vous trouverez tous les renseignements concernant le laboratoire, les sponsors, les coulisses et les extraits sonores dans la description de cet épisode.
Nous remercions toutes les personnes ayant rendu possible ce podcast. Nous espérons que vous avez apprécié ce thé en notre compagnie et nous nous retrouvons le mois prochain avec un nouvel invité. À bientôt !